Chapitre 26. Monsieur Salomon Pell, assisté par un comité choisi de cochers, arrange les affaires de Monsieur Weller senior. Samivel, dit Monsieur Weller en accostant son fils le lendemain des funérailles, je l'ai trouvé. Je pensais bien qu'il était ici. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Le testament de ta belle-mère, Samy, qui fait ces arrangements dont je t'ai parlé pour les fontes. Quoi? Elle ne vous avait pas dit où il était? Pas un brin, Samy. Nous étions en train d'ajuster nos petits différends, et je la remontais, et je l'engageais à se remettre sur pied, si bien que j'ai oublié de lui parler de cela. Ensuite, je ne sais pas trop si j'en aurais parlé, quand même je m'en serais souvenu, car c'est une drôle de chose, Samy, de tourmenter quelqu'un pour sa propriété quand vous l'assistez dans une maladie. C'est comme si vous mettiez la main dans la poche d'un voyageur de l'impérial qui a été jeté par terre pendant que vous l'aidez à se relever et que vous lui demandez avec un soupir comment il se porte. Après avoir donné cette illustration figurée de sa pensée, M. Weller ouvrit son portefeuille et tira une feuille de papier à lettres passablement malpropre et sur laquelle étaient inscrits divers caractères amoncelés dans une remarquable confusion. Voilà ici le document, Samy. Je l'ai trouvé dans la petite théière noire sur la planche de l'armoire du comptoir. C'est là qu'elle mettait ses banknotes avant d'être mariée, Samy. J'y en ai vu prendre bien des fois. Pauvre créature, elle aurait pu remplir de testament toutes les théières de la maison sans se gêner beaucoup, car elle ne prenait guère de cette boisson-là dans les derniers temps, excepté dans les soirées de tempérance, où ce qu'elle mettait une fondation de thé pour poser les esprits par-dessus. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda Sam. « Juste ce que je t'ai raconté, mon garçon. 200 livres sterling dans les fontes à mon beau-fils Samivel et tout le reste de mes propriétés de toutes sortes à mon mari, M. Tony Weller, que je nomme mon seul équateur. Est-ce tout ? C'est tout. Et comme il est clair et satisfaisant pour vous et pour moi, qui sont les seules parties intéressées, je suppose que nous pourrons aussi bien mettre ce morceau de papier-ci dans le feu. « Qu'est-ce que vous allez faire, lunatique ? » s'écria Sam en saisissant le testament, tandis que son père attisait innocemment le feu avant de l'y jeter. « Vous êtes un joli exécuteur, véritablement. »« Pourquoi pas ? » demanda M. Weller en se retournant d'un air sévère avec le fourgon dans sa main. « Pourquoi pas ? Parce qu'il faut qu'il soit égalisé et falsiflé et juré et toutes sortes de manières de formalité. » « C'est-il sérieux, tout ça ?» demanda M. Weller en déposant le fourgon. Sam boutonna soigneusement le testament dans sa poche en intimant par un geste qu'il parlait fort sérieusement. « Alors, je vais te dire la chose, » reprit M. Weller après une courte méditation. « Voilà une affaire qui regarde l'ami intime du chancelier. Il faut que Pell mette son nez là-dedans. C'est un fameux gaillard dans une question de loi difficile. » « Nous allons faire produire ça sur le champ, devant la cour des insolvables, Samy. »« Je n'ai jamais vu une vieille créature aussi écervelée !» s'écria Sam colériquement. « Old Bailey et la cour des insolvables, et les alébis, et toutes sortes de fariboles qui se brouillent dans sa cervelle. Vous feriez mieux de mettre votre habit du dimanche et de venir avec moi à la ville pour arranger cette affaire ici, que de rester là à prêcher sur ce que vous n'entendez pas. » « Très bien, Samy, je suis tout à fait concordant à ce qui pourra expédier les affaires. Mais fais attention à ceci, mon garçon. Il n'y a que Pell, il n'y a que Pell dans une affaire législative. »« Je n'en demande pas un autre, mais êtes-vous prêt à venir ?»« Attends une minute, Samy, » répliqua M. Weller en attachant son châle à l'aide d'une petite glace accrochée à la fenêtre. « Attends une minute, Samy. » poursuivit-il en s'efforçant d'entrer dans son habit au moyen des plus étonnantes contorsions. « Quand tu seras devenu aussi vieux que ton père, tu n'entreras pas dans ta veste aussi aisément qu'à présent, mon garçon. »« Si je ne pouvais pas y entrer plus aisément que cela, je veux être pendu si j'en mettais jamais une. »« Tu penses comme ça maintenant, » répliqua M. Weller avec la gravité de l'âge. « Mais tu t'apercevras que tu deviendras plus sage quand tu deviendras plus gros. La grosseur et la sagesse vont toujours ensemble, Samy. » Ayant débité cette infaillible maxime, résultat de beaucoup d'années et d'observations personnelles, M. Weller parvint, par une habile inflexion de son corps, à boutonner le premier bouton de sa lourde redingote. Ensuite, s'étant reposé quelques secondes pour reprendre haleine, il brossa son chapeau avec son coude et déclara qu'il était prêt. « Comme quatre têtes valent mieux que deux, Samy, » dit M. Weller en conduisant sa carriole sur la route de Londres. « Et comme cette propriété ici est une tentation pour un gentleman de la justice, nous prendrons deux de mes amis avec nous, qui seront bientôt sur ses talons s'il veut faire quelque chose d'inconvenant. Deux de ceux que tu as vus à la prison l'autre jour. C'est les meilleurs connaisseurs en chevaux que tu aies jamais rencontrés. » « Et en homme d'affaires aussi ?»« L'homme qui s'est formé un jugement judiciaire d'un cheval peut former un jugement judiciaire de n'importe quoi, » répondit M. Weller si dogmatiquement que Sam n'osa point contester cet aphorisme. En conséquence de cette notable résolution, M. Weller mit en réquisition les services du gentleman au teint marbré et ceux de deux autres très gros cochers, choisis apparemment à cause de leur ampleur et de leur sagesse proportionnelle. Le quintet se rendit alors à la taverne du Portugal Street, d'où un messager fut dépêché à la cour des insolvables pour requérir la présence immédiate de M. Salomon Pell. Le messager le trouva dans la salle, occupé à prendre une petite collation froide composée d'un biscuit et d'un cervelas. Les affaires étaient un peu languissantes en ce moment. Aussi, à peine le message lui eut-il été soufflé dans l'oreille qu'il fourra les restes de son déjeuner dans sa poche parmi plusieurs autres documents professionnels et se dirigea vers ses clients avec tant de vivacité qu'il avait atteint le parloir de la taverne avant que le messager se fût dégagé de la salle d'audience. « Gentlemen, dit M. Pell en touchant son chapeau, je vous offre mes services. Je ne dis pas cela pour vous flatter, gentlemen, mais il n'y a pas dans le monde cinq autres personnes pour qui je fusse sorti de la cour aujourd'hui. » « Fort occupé, dit Sam. Occupé par-dessus les épaules, comme mon ami le défunt Lord Chancelier me disait souvent quand il venait d'entendre des appels de la Chambre des Lords. Il n'était pas bien robuste et il se ressentait beaucoup de ces appels. J'ai pensé bien des fois qu'il ne pourrait pas y résister en vérité. » En achevant ces paroles, M. Pell branla la tête et s'arrêta. Aussitôt, M. Weller, poussant du coude son voisin pour lui faire remarquer les connaissances distinguées de l'homme d'affaires, demanda à celui-ci si les fatigues en question avaient produit quelques mauvais effets permanents sur la constitution de son noble ami. « Je ne pense pas qu'il s'en soit jamais remis, » répliqua M. Pell. « En fait, je suis sûr que non. Pell, me disait-il souvent, comment diable pouvez-vous soutenir tout le travail que vous faites? C'est un mystère pour moi. » « Ma foi, répondais-je, sur ma vie, je ne le sais pas moi-même. » « Pell, ajouta-t-il en soupirant et en me regardant avec un peu d'envie. « Une envie amicale, comme vous voyez, gentlemen, pure envie amicale. Je n'y faisais pas attention. »« Pell, disait-il, vous êtes étonnant, vraiment étonnant. » « Ah, vous l'auriez beaucoup aimé, si vous l'aviez connu, gentlemen. Apportez-moi pour 3 pence de rhum, ma chère. » Ayant adressé cette dernière phrase à la servante d'un ton de douleur comprimée, M. Pell soupira, regarda ses souliers, puis le plafond, but son rhum et, tirant sa chaise plus près de la table, « Quoi qu'il en soit, un homme de ma profession n'a pas le droit de penser à ses amitiés privées quand son assistance légale est requise. Par parenthèse, gentlemen, depuis la dernière fois que je vous ai vu, nous avons eu à pleurer sur une mélancolique circonstance. » M. Pell tira son mouchoir en prononçant le mot « pleurer », mais il n'en fit pas d'autre usage que d'essuyer une légère goutte de rhum qui teignait sa lèvre supérieure. « J'ai vu ça dans l'advertiseur, M. Weller, » poursuivit-il, « et dire qu'elle n'avait pas plus de 52 ans. » Ces exclamations d'un esprit pensif étaient adressées à l'homme au teint marbré dont M. Pell avait fortuitement rencontré le regard. Malheureusement, la conception de celui-ci était, en général, d'une nature fort nuageuse. Il s'agita d'un air inquiet sur sa chaise, en déclarant qu'en vérité, quant à cela, il n'y avait pas moyen de dire comment les choses en étaient venues là. Proposition subtile, difficile à détruire par des arguments, et qui, en conséquence, ne fut controversée par personne. « J'ai entendu dire que c'était une bien belle femme, monsieur Wheeler, » ajouta-t-il d'un air de sympathie. « Oui, monsieur, c'est vrai, » répliqua le cocher, quoiqu'il n'aimât pas trop cette manière d'entamer le sujet. Mais il pensait que l'homme d'affaires, vu sa longue intimité avec le défunt Lord Chancelier, devait se connaître mieux que lui en politesse et en bonne manière. « Elle était fort belle femme quand je l'ai connue, monsieur. Elle était veuve, alors. » « Voilà qui est curieux, » dit Pell en regardant les assistants avec un douloureux sourire. « Madame Pell aussi était une veuve. »« C'est un fait fort extraordinaire, » fit observer l'homme au teint marbré. « Oui, c'est une singulière coïncidence, » reprit Pell. « Pas du tout, » reprit M. Wheeler d'un ton bourru. « Il y a plus de veuves que de filles qui se marient. »« très bien, » répondit Pell. « Vous avez tout à fait raison, monsieur Wheeler. Madame Pell était une femme élégante et accomplie. Ses manières faisaient l'admiration générale du voisinage. J'étais orgueilleux quand je la voyais danser. Il y avait quelque chose de si ferme, de si noble et cependant de si naturel dans son maintien. Sa tournure, gentlemen, était la simplicité même. « Ah, hélas !» « Permettez-moi cette question, monsieur Samuel, » poursuivit l'avoué d'une voix plus basse. « Votre belle-mère était-elle grande ?»« Pas trop. » »« Madame Pell était grande. C'était une femme superbe, d'une magnifique figure, et dont le nez, gentlemen, avait été fait pour commander. Elle m'était fort attachée, fort. Elle avait de plus une famille distinguée. Le frère de sa mère, gentlemen, avait fait une faillite de 800 livres sterling comme Law Stationer. Maintenant, interrompit M. Wheeler, qui s'était montré inquiet et agité pendant cette discussion. Maintenant, pour parler d'affaires. Ces paroles furent une délicieuse musique aux oreilles de M. Pell. Il cherchait depuis longtemps à deviner s'il y avait quelque affaire à traiter, ou s'il avait été simplement invité pour prendre sa part d'un bol de punch ou de grog. Et le doute se trouvait résolu sans qu'il eût témoigné aucun empressement capable de le compromettre. Il posa son chapeau sur la table et ses yeux brillaient en disant « Quelle est l'affaire sur laquelle... y a-t-il un de ces gentlemen qui désire passer devant la cour? Nous avons besoin d'une arrestation. Une arrestation amicale fera l'affaire. Nous sommes tous amis ici, je suppose. » Donne-moi le document, Samy. » fit M. Wheeler à son fils, qui paraissait jouir étonnamment de cette scène. « Ce que nous désirons, monsieur, c'est vérification de ceci. »« Une vérification, mon cher monsieur, vérification, » fit observer Pell. « C'est bien, monsieur, » reprit M. Wheeler aigrement. « Vérification ou vétrification, c'est toujours la même chose. Si vous ne me comprenez pas, j'espère que je trouverai quelqu'un qui me comprendra. » « Il n'y a pas d'offense, monsieur Wheeler, » répondit Pell d'un ton doux. « Vous êtes l'exécuteur à ce que je vois, » ajouta-t-il en jetant les yeux sur le papier. « Oui, monsieur. » « Ces autres gentlemen sont légataires à ce que je présume, » demanda Pell avec un sourire congratulatoire. « Samy est locataire, » répliqua monsieur Wheeler. « Ces autres gentlemen sont de mes amis, venus avec moi pour voir que tout se passe comme il faut, » des espèces d'arbitres. Oh, très bien, je n'ai aucune raison pour m'opposer à cela, assurément. Je vous demanderai la légère somme de 5 livres sterling avant de commencer. Ha ha ha! Le comité ayant décidé que les 5 livres sterling pouvaient être avancés, M. Wheeler produisit cette somme. Ensuite, on tint, à propos de rien, une longue consultation dans laquelle M. Pell démontra, à la parfaite satisfaction des arbitres, que si le soin de cette affaire avait été confié à tout autre qu'à lui, elle aurait tourné de travers pour des raisons qu'il n'expliquait pas clairement mais qui était sans aucun doute satisfaisante. Ce point important des péchés, l'homme de loi prit pour se restaurer trois côtelettes arrosées de bière et d'eau-de-vie, puis ensuite toute la troupe se dirigea vers Doctor's Commons. Le lendemain, on fit une autre visite à Doctor's Commons, mais les attestations nécessaires furent un peu enrayées par un palefrenier ivre qui se refusait obstinément à jurer autre chose que des jurons profanes, au grand scandale d'un procureur et d'un délégué du Lord Chancelier. La semaine suivante, il fallut faire encore d'autres visites à Doctor's Commons, puis au Bureau des droits d'héritage. Puis il fallut rédiger un contrat pour la vente de l'auberge, ratifier ledit contrat, dresser des inventaires, accumuler des masses de papier, expédier des déjeuners, avaler des dîners et faire enfin une foule d'autres choses également nécessaires et profitables. Aussi, M. Salomon Pell et son garçon, et son sac bleu par-dessus le marché, se remplumèrent-ils si bien qu'on aurait eu infiniment de peine à les reconnaître pour le même homme, le même garçon et le même sac qui flânaient à vide quelques jours auparavant dans Portugal Street. À la fin, toutes ces importantes affaires ayant été arrangées, un jour fut fixé pour la vente et le transfert en rente qui devait être fait par les soins de Wilkins Flasher, Esquire, agent de change, demeurant aux environs de la banque, lequel avait été recommandé par M. Salomon Pell. C'était une sorte de jour de fête, et nos amis n'avaient pas manqué de se costumer en conséquence. Les bottes de M. Weller étaient fraîchement cirées et ses vêtements arrangés avec un soin particulier. Le gentleman au teint marbré portait à la boutonnière de son habit un énorme dahlia garni de quelques feuilles, et les habits de ses deux amis étaient ornés de bouquets de lauriers et d'autres arbres verts. Tous les trois avaient mis leur costume de fête, c'est-à-dire qu'ils étaient enveloppés jusqu'au menton et portaient la plus grande quantité possible de vêtements, ce qui a toujours été le nec plus ultra de la toilette pour les cochers de voitures publiques depuis que les voitures publiques ont été inventées. M. Pell les attendait à l'heure désignée dans le lieu de réunion ordinaire. Lui aussi avait mis une paire de gants et une chemise blanche, malheureusement éraillées au col et au poignet par de trop fréquents lavages. « 14h-15 », dit-il en regardant l'horloge de la salle. « Le meilleur moment pour aller chez M. Flasher, c'est 14h15. »« Que pensez-vous d'une goutte de bière, gentlemen ?» suggéra l'homme au teint marbré. « Et d'un petit morceau de bœuf froid ?» dit le second cocher. « Écoutez, écoutez !» cria Pell. « Ou bien d'une huître !» ajouta le troisième cocher, qui était un gentleman enroué, supporté par des piliers énormes. « Afin de féliciter M. Weller sur sa nouvelle propriété !» continua l'habile homme d'affaires. « Hé ! Ha ! Hi ! Hi ! Hi ! Hi ! J'y suis tout à fait consentant, gentlemen !» répondit M. Weller. « Samy, tirez la sonnette !» Sam obéit, et le porteur, le bœuf froid et les huîtres ayant été promptement apportés, furent aussi promptement dépêchés. Dans une opération où chacun prit une part si active, il serait peut-être inconvenant de signaler quelques distinctions. Pourtant, si un individu montra plus de capacité qu'un autre, ce fut le cocher à la voix enrouée, car il prit une pinte de vinaigre avec ses huîtres sans trahir la moindre émotion. Lorsque les coquilles d'huîtres eurent été emportées, un verre d'eau et d'eau-de-vie fut placé devant chacun des gentlemen. « Monsieur Pell, » dit M. Weller en remuant son grog, « c'était mon intention de proposer un toast en l'honneur des fontes dans cette occasion. Mais Samy Vell m'a soufflé tout bas, ici M. Samuel Weller, qui jusqu'alors avait mangé ses huîtres avec de tranquilles sourires, cria tout à coup d'une voix sonore, « Écoutez !» m'a soufflé tout bas qu'il vaudrait mieux dévouer la liqueur à vous souhaiter toutes sortes de succès et de prospérité et à vous remercier de la manière dont vous avez conduit mon affaire. À votre santé, monsieur !»« Arrêtez un instant !» s'écria le gentleman au teint marbré avec une énergie soudaine. « Regardez-moi, gentlemen !» En parlant ainsi, le gentleman au teint marbré se leva et ses compagnons en firent autant. Il promena ses regards sur toute la compagnie, puis il leva lentement sa main et, en même temps, chaque gentleman présent prit une longue haleine et porta son verre à sa bouche. Au bout d'un instant, le coryphée abaissa la main et chaque verre fut déposé sur la table complètement vide. Il est impossible de décrire l'effet électrique de cette imposante cérémonie. À la fois simple, frappante et pleine de dignité, elle combinait tous les éléments de grandeur. « Eh bien, gentlemen, fit alors M. Pell, tout ce que je puis dire, c'est que de telles marques de confiance sont bien honorables pour un homme d'affaires. Je ne voudrais point avoir l'air d'un égoïste, gentlemen, mais je suis charmé, dans votre propre intérêt, que vous vous soyez adressés à moi. Voilà tout. Si vous étiez tombé entre les griffes de quelques membres infimes de la profession, vous vous seriez trouvé depuis longtemps dans la rue des Enfoncés. Plût à Dieu que mon noble ami eût été vivant pour voir comment j'ai conduit cette affaire. Je ne dis pas cela par amour-propre, mais je pense... Mais non, gentlemen, je ne vous fatiguerai pas de mon opinion à cet égard. On me trouve généralement ici, gentlemen. Mais si je ne suis pas ici, ou bien de l'autre côté de la rue, voilà mon adresse. Vous trouverez mes prix fort modérés et fort raisonnables. Il n'y a pas d'homme qui s'occupe plus que moi de ses clients, et je me flatte, en outre, de connaître suffisamment ma profession. Si vous pouvez me recommander à vos amis, gentlemen, je vous en serai très obligé, et ils vous seront obligés aussi quand ils me connaîtront. À votre santé, gentlemen !» Ayant ainsi exprimé ses sentiments, M. Salomon Pell plaça trois petites cartes devant les amis de M. Weller et, regardant de nouveau l'horloge, manifesta la crainte qu'il ne fût temps de partir. Comprenant cette insinuation, M. Weller paya les frais. Puis l'exécuteur, le légataire, l'homme d'affaires et les arbitres dirigèrent leurs pas vers la cité. Le bureau de Wilkins Flasher, Esquire, agent de change, était au premier étage dans une cour derrière la Banque d'Angleterre. La maison de Wilkins Flasher, Esquire, était à Brixton, Surrey. Le cheval et le Stanhope de Wilkins Flasher, Esquire, étaient dans une écurie et une remise adjacente. Le groom de Wilkins Flasher, Esquire, était en route vers le West End pour y porter du gibier. Le clerc de Wilkins Flasher, Esquire, était allé dîner. Et ainsi, ce fut Wilkins Flasher lui-même qui cria « Entrez !» lorsque M. Pell et ses compagnons frappèrent à la porte de son bureau. « Bonjour, monsieur !» dit Pell en saluant obséquieusement. « Nous désirerions faire un petit transfert, s'il vous plaît. » « Bien, bien, entrez, » répondit M. Flasher. « Asseyez-vous une minute, je suis à vous sur le champ. »« Merci, monsieur, » reprit Pell, « il n'y a pas de presse. »« Prenez une chaise, M. Weller. » M. Weller prit une chaise et Sam prit une boîte et les arbitres prirent ce qu'ils purent trouver et se mirent à contempler un almanach et deux ou trois papiers collés au mur avec d'aussi grands yeux et autant de révérences que si ça avait été les plus belles productions des anciens maîtres. Eh bien, voulez-vous parier une demi-douzaine de vins de Bordeaux ? Dit Wilkins Flasher, Esquire, en reprenant la conversation que l'entrée de M. Pell et de ses compagnons avait interrompue un instant. Ceci s'adressait à un jeune gentleman fort élégant qui portait son chapeau sur son favori droit et qui, nonchalamment appuyé sur un bureau, s'occupait à tuer des mouches avec une règle. Wilkins Flasher, Esquire, se balançait sur deux des pieds d'un tabouret fort élevé, frappant avec une grande dextérité de la pointe d'un canif le contre d'un petit pain à cacheter rouge collé sur une boîte de carton. Les deux gentlemen avaient des gilets très ouverts et des collets très rabattus, de très petites bottes et de très gros anneaux, de très petites montres et de très grosses chaînes, des pantalons très symétriques et des mouchoirs parfumés. « Je ne parie jamais une demi-douzaine. Une douzaine, si vous voulez. Tenue, Simmery, tenue. Première qualité. Naturellement, répliqua Wilkins Flasher Esquire. Et il inscrivit le pari sur un petit carnet avec un porte-crayon d'or. L'autre gentleman l'inscrivit également sur un autre petit carnet avec un autre porte-crayon d'or. « J'ai lu ce matin un avis concernant Beaufort, » dit ensuite M. Simmery. « Pauvre diable, il est exécuté. » « Je vous parie 10 guinées contre 5 qu'il se coupe la gorge. »« Tenu. »« Attendez, je me ravise, » reprit Wilkins Flasher d'un air pensif. « Il se pendra peut-être. » « Très bien, » répliqua M. Simmery en tirant le porte-crayon d'or. « Je consens à cela. Disons qu'il se détruira. »« Qu'il se suicidera. » »« Précisément. Flasher, 10 guinées contre 5. Beaufort se suicidera. Dans quel espace de temps, dirons-nous ? » ?»«
Une quinzaine. » »«
Non pas, » répliqua M. Simmery en s'arrêtant un instant pour tuer une mouche. « Disons une semaine. » « Partageons la différence. Mettons 10 jours. »«
Bien, 10 jours. »
Ainsi, il fut enregistré sur le petit carnet que Beaufort devait se suicider dans l'espace de 10 jours, sans quoi Wilkins Flasher, Esquire, paierait à Frank Simmery, Esquire, la somme de 10 guinées. Mais que, si Beaufort se suicidait dans cet intervalle, Frank Simmery, Esquire, paierait 5 guinées à Wilkins Flasher, Esquire. « Je suis très fâché qu'il ait sauté, » reprit Wilkins Flasher, Esquire. « Quel fameux dîner il donnait !»« Quel bon porteur il avait !»« J'envoie demain notre maître d'hôtel à la vente pour acheter quelques bouteilles de son 64. »« Diantre, mon homme doit y aller aussi. 5 guinées que mon homme couvre l'enchère du vôtre. »«
Tenu !»
Une autre inscription fut faite sur les petits carnets, et M. Simmery, ayant tué toutes les mouches et tenu tous les paris, se dandina jusqu'à la bourse pour voir ce qui s'y passait. Wilkins Flasher, Esquire, condescendit alors à recevoir les instructions de M. Salomon Pell et, ayant rempli quelques imprimés, engagea la société à le suivre à la banque. Durant le chemin, M. Wheeler et ses amis ouvraient de grands yeux pleins d'étonnement à tout ce qu'ils voyaient, tandis que Sam examinait toute chose avec un sang-froid que rien ne pouvait troubler. Ayant traversé une cour remplie de mouvements et de bruit, et passé près de 2 portiers qui paraissaient habillés pour rivaliser avec la pompe à incendie peinte en rouge et reléguée dans un coin, nos personnages arrivèrent dans le bureau où leur affaire devait être expédiée et où Pell et Flasher les laissèrent quelques instants pour monter au bureau des testaments.
« Qu'est-ce que c'est donc que cet endroit-ci » murmura l'homme au teint marbré à l'oreille de M. Wheeler, senior.
« Le bureau des consolidés !» répliqua tout bas l'exécuteur testamentaire.
« Qu'est-ce que c'est que tous ces gentlemen qui se tiennent derrière les comptoirs ?» demanda le cocher enroué.
« Des consolidés réduits, je suppose, » répondit M. Wheeler.
« C'est-il pas des consolidés réduits, Samivel ?»«
Comment ?» « Vous ne supposez pas que les consolidés sont vivants ?» dit Sam avec quelque dédain.
« Est-ce que je sais, moi ?» reprit M. Wheeler. « Qu'est-ce que c'est alors ?»«
Des employés, » répondit Sam.
« Pourquoi donc ils mangent tous des sandwichs au jambon ?»«
Parce que c'est dans leur devoir, je suppose. C'est une partie du système. Ils ne font que ça toute la journée. » M. Wheeler et ses amis eurent à peine un moment pour réfléchir sur cette singulière particularité du système financier de l'Angleterre, car ils furent rejoints aussitôt par Pell et par Wilkins Flasher, Esquire, qui les conduisirent vers la partie du comptoir au-dessus de laquelle un gros W était inscrit sur son écriteau noir.
« Pourquoi sait-il cela ?» demanda M. Wheeler à M. Pell en dirigeant son attention vers l'écriteau en question.
« La première lettre du nom de la défunte, » répliqua l'homme d'affaires.
« Ça ne peut pas marcher comme ça, » dit M. Wheeler en se tournant vers les arbitres. « Il y a quelque chose qui ne va pas bien. V est notre lettre. Ça ne peut pas aller comme ça. »
Les arbitres, interpellés, donnèrent immédiatement leur opinion que l'affaire ne pouvait pas être légalement terminée sous la lettre W. Et, suivant toutes les probabilités, elle aurait été retardée d'un jour au moins si Sam n'avait pas pris sur le champ un parti peu respectueux en apparence mais décisif. Saisissant son père par le collet de son habit, il le tira vers le comptoir et l'y tint cloué
jusqu'à ce qu'il eût apposé sa signature sur une couple d'instruments. Ce qui n'était pas une petite affaire, vu l'habitude qu'avait M. Wheeler de n'écrire qu'en lettres moulées. Aussi, pendant cette opération, l'employé eut-il le temps de couper et de peler trois pommes de rainette. Comme M. Wheeler insistait pour vendre sa portion sur le champ, toute la bande se rendit de la banque à la porte de la bourse. Après une courte absence, Wilkins Flasher, Esquire, revint vers nos amis, apportant sur Smith, Payne et Smith un mandat de 500 livres sterling, lesquels 500 livres sterling représentaient au cours du jour la portion des rentes de la seconde Madame Wheeler afférente à M. Wheeler senior. Les 200 livres sterling de Sam restèrent inscrites en son nom et Wilkins Flasher, Esquire, ayant reçu sa commission, la laissa tomber nonchalamment dans sa poche et se dandina vers son bureau. M. Wheeler était d'abord obstinément décidé à ne toucher son mandat qu'en souverain. Mais les arbitres lui ayant représenté qu'il serait obligé de faire la dépense d'un sac pour les emporter, il consentit à recevoir la somme en billets de 5 livres sterling. « Mon fils et moi, dit-il en sortant de chez le banquier, mon fils et moi, nous avons un engagement très particulier pour cet après-dîner et je voudrais bien enfoncer cette affaire ici complètement. Ainsi, allons-nous-en tout droit quelque part pour finir nos comptes. » Une salle tranquille ayant été trouvée dans le voisinage, les comptes furent produits et examinés. Le mémoire de M. Pell fut taxé par Sam et quelques-uns des articles ne furent pas alloués par les arbitres. Mais quoique M. Pell leur eût déclaré, avec de solennelles assurances, qu'ils étaient trop durs pour lui, ce fut certainement l'opération la plus profitable qu'il eût jamais faite et elle servit à défrayer pendant plus de 6 mois son logement, sa nourriture et son blanchissage. Les arbitres, ayant pris la goutte, donnèrent des poignées de main et partirent, car ils devaient conduire le soir même. M. Salomon, voyant qu'il n'y avait plus rien à boire ni à manger, prit congé de la manière la plus amicale, et Sam fut laissé seul avec son père. « Mon garçon, dit M. Wheeler en mettant son portefeuille dans sa poche de côté, il y a là 1180 livres sterling, y compris les billets pour la cessation du bail et le reste. Maintenant, Samivelle, tournez la tête du cheval du côté du Georges et Vautour. »